Je pense qu'elle va faire réagir, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller relativement vite sur la proposition pour que les uns et les autres puissent peut-être vous poser des questions. Il y a des chapitres sur lesquels vous êtes passé très vite et qui, d'après moi, vont faire réagir. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Il y a monsieur qui veut être le premier. Parce que j'imagine que la question, notamment de l'augmentation du nombre de pédopsychiatres, voilà, va susciter quelques
Mais ça ne devrait pas.
Eh bien, bonjour, Daniel Sechter, je suis médecin des hôpitaux, professeur de psychiatrie générale au CHU de Besançon. Et mon intervention va aller tout à fait dans le sens, bien sûr, des propos de Madame Moreau et de Monsieur Halimi et des intervenantes de ce matin, en soulignant qu'il est en effet essentiel d'être dans une approche développementale d'une médecine de la construction du sujet au-delà des symptômes, comme l'a dit Monsieur Halimi, mais aussi au-delà des clivages, et des clivages qui existent malheureusement encore trop souvent, entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie, entre la psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, et celle de l'adulte et du sujet âgé, que ces relations entre pédiatrie, psychiatrie de l'enfant, psychiatrie de l'adulte sont tout à fait possibles, et j'ai la chance d'avoir ce qui existe à Besançon avec Madame le professeur Sylvie Nesleff. Et par rapport à ces points, oui, il est essentiel qu'il y ait une reconnaissance et un développement des moyens de la psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent. J'aurais deux questions pratiques, deux points pratiques par rapport à ces sujets, à savoir, pour l'accès aux soins, la démographie médicale et les formations, il y a la question de la réforme du troisième cycle. Avec cette réforme du troisième cycle, les liens pluriprofessionnels entre neurosciences, sciences humaines et sociales, tous ces aspects, la nécessité d'avoir des professeurs de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, comme tu l'as bien souligné, qu'en est-il du projet d'aller vers un co-DES plutôt que d'avoir une option du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie générale, d'aller vers un co-DES pour qu'en effet, il y ait de façon fléchée une orientation qui soit clairement pour appuyer parallèlement les moyens de la psychiatrie de l'enfant et de la psychiatrie de l'adulte. Première question donc sur cet aspect. Réforme du troisième cycle et co-DES. La deuxième question est aussi pratico-pratique sur ce que tu nous as présenté au niveau de l'expérimentation. Si j'ai bien compris, c'est 12 séances auprès d'un psychologue pour les jeunes en état de souffrance psychique. Mais si j'ai compris, ce n'est pas en orientation du côté des pédopsychiatres ou des psychiatres d'adultes. A priori, c'est du côté de souffrance psychique identifiée par des médecins généralistes ou d'autres disciplines, mais que ce ne serait pas par rapport aux professionnels de la psychiatrie. Donc, c'est cette question, mais enfin, tu as bien dit que c'était en réseau aussi. Et enfin, dernier point, d'insister, comme je le disais au début, sur la nécessaire remise à plat des liens entre la psychiatrie et les disciplines médicales.
Oui. Merci beaucoup, Daniel, parce que, en plus, ton intervention me permet de préciser plusieurs points auxquels je tiens aussi beaucoup. Lorsque on demande une augmentation des moyens pour travailler aussi bien avec les bébés, enfants et adolescents, il est clair d'abord que c'est pluridisciplinaire, mais j'ai pris l'action des pédopsychiatres parce qu'elle est extrêmement facile à... Les chiffres sont tellement impressionnants que... Mais il s'agit de considérer que c'est pluridisciplinaire. Et pour ce qui concerne la psychiatrie du petit périnat et la psychiatrie de l'adolescent, c'est bien sûr en articulation avec la psychiatrie d'adulte, parce que d'abord il y a les mères, et puis c'est vraiment une nécessité des deux, et puis pareil pour les adolescents. Donc quand je dis augmentation des moyens, c'est pour tous ceux qui interviennent, et effectivement la question de la pédiatrie et en particulier des prises en charge, la nécessité de double prise en charge, l'importance du somatique à cet âge. Enfin, évidemment, tout ça, c'est évident. Hein. Mais là, je l'ai resserré en disant pédopsychiatrie, mais la question en plus de la transition, évidemment, très importante, je crois qu'elle va être traitée plus tard, mais pour nous aussi, elle est extrêmement, par Emmanuel, je crois, mais c'est très important. Premier point. Donc c'est une prise en charge globale. Et puis cette question de l'adolescent dans son contexte, quoi. Par exemple, j'ai aussi dans la valorisation, parce qu'en fait on a à notre disposition des dispositifs en France qui sont extrêmement novateurs. Par exemple, je prends un exemple qui est développé de manière importante dans le rapport, c'est les soins-études. Je sais que certains sont là, voilà, du Pré. Les soins-études, comme tels qu'ils sont, par exemple, à Dupré, c'est un outil extraordinaire. De pouvoir, dans une articulation forte, soigner et permettre que toute la question du rapport au savoir, de l'estime de soi, de la réalisation, de la construction aussi d'un avenir, que ça puisse être fait. Si les Américains avaient ça, ils nous feraient, ou les Australiens, je parle beaucoup des Australiens parce qu'ils ont réussi à faire un certain nombre de choses en politique de santé pour les adolescents. S'ils avaient des dispositifs comme ça, ils auraient des publications internationales incroyables. Parce que c'est vraiment extrêmement important. Alors, on n'en a pas assez. Il faudrait les faire un peu plus tôt aussi. On peut toujours avoir des envies pour améliorer ces dispositifs, hein, en tout cas en termes de... c'est absolument incroyable d'avoir ces possibilités-là. Ça, c'est une prise en charge globale. Ça, c'est une prise en charge où on n'oublie ni le corps, ni le fonctionnement psychique, ni la famille. Parce qu'avoir un adolescent, par exemple, qui n'arrive plus à aller à l'école parce qu'il est triste ou parce qu'il a une phobie scolaire, c'est une blessure absolument incroyable. Donc la prise en charge doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là.
Madame Moreau, si vous voulez répondre à toutes les questions, je pense qu'il faut... Oui. Et il y avait deux questions sur le troisième cycle, d'abord, la réforme du troisième cycle. Et puis
plus rapide, seconde.
L'expérimentation.
La seconde, oui. C'est qui fait l'évaluation L'idée, ce n'est pas de se substituer ni au CMP, ni au CMPP, ni aux autres. Donc il faut que ce soit quelque chose en plus. Mais qui peut faire l'évaluation? Ça peut être le médecin initial pour pouvoir rentrer dans le réseau et confier au psychologue. Ça peut être le médecin généraliste qu'on est en train de former. Les médecins généralistes, ça peut être les pédopsychiatres, ça peut être un pédiatre, un médecin. Mais c'est justement ça. Mais faut pas que ça vienne se substituer, évidemment. Si on a un CMPP à côté ou un CMP... Là, ça n'a plus de sens d'aller utiliser le pass santé jeune. Ou alors pour des questions... Il y a une articulation médicale et une prise en charge psychologique.
Et la réforme du troisième cycle?
Alors, la réforme du troisième cycle, elle est partie. Là, vous savez qu'on a les parties sous forme... la forme actuelle avec des imperfections importantes. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est effectivement une option aujourd'hui. Il est clair pour tout le monde qu'il faut que ça devienne un co-DES. On va travailler dans ce sens-là. Je sais que le ministère, la ministre, les ministres veulent travailler là-dessus. Pour dire vrai, on n'a pas encore vraiment commencé à travailler. Là, il y avait l'urgence d'essayer de faire en sorte que ça parte bien avec les phases socles. Vous savez, ces internes tout petits qui arrivent dans les services, où il faut vraiment beaucoup les former, les accompagner, les superviser. Donc on a mis en place les phases socles. Il y aura les phases d'approfondissement au milieu. Puis ensuite, la dernière année qui s'appelle consolidation, où il y a un problème de rédaction du texte. Parce que cette année de consolidation doit être faite dans n'importe quelle discipline de la psychiatrie, adultes, enfants ou personnes âgées, qui est une nouvelle option. Mais en fait, la rédaction est très confuse. Donc il faut qu'on change absolument la rédaction de cette phase de consolidation. Et effectivement, en parallèle, on travaille sur la notion de co-DES pour pouvoir former vraiment un contingent... Qui, selon les besoins, devrait être au moins de un tiers des psychiatres formés, avec des formations. Alors, sachant que par rapport au reste de l'Europe, on est en retard sur les formations.
Alors, juste pour des questions d'organisation, combien il y a de personnes qui souhaitent, a priori, poser des questions? Qu'on voit à peu près ce que ça peut représenter en volume. 1, 2, 3, pas d'autres? 4, 5? Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, c'est bon. Et on a... on a du temps.
Oui, Pierre Micheletti, je me suis exprimé déjà ce matin sur les aspects de démographie médicale. Je voudrais y revenir un tout petit peu. pour évoquer le fait que le débat sur la démographie des pédopsychiatres n'est pas qu'un débat quantitatif. C'est-à-dire, une question est celle de la revalorisation globale du nombre de praticiens, avec des questions qui traversent le champ disciplinaire, mais il y a aussi tout le... Et c'est pour ça que je commençais ce matin par cette notion d'aménagement du territoire, parce qu'il y a chez le pédopsychiatre une tendance qu'on retrouve dans toutes les disciplines médicales à la surspécialisation, et oui. qu'une augmentation arithmétique du nombre de praticiens qui ne serait pas par ailleurs attentive à comment ces praticiens se répartiraient ensuite entre de la surspécialisation versus la pédopsychiatrie de première ligne sur les territoires ne résoudrait pas l'équation démographique. Donc, et si, par ailleurs, on parle de territoires sur lesquels, de façon concomitante, il y aurait une déflation des moyens de la PMI, plus de médecins scolaires, plus de médecins généralistes, alors on a une équation qui me faisait évoquer ce matin la notion cruciale d'aménagement du territoire qui est emblématique dans cette spécialité en santé.
Oui. Juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est l'enjeu d'être capable de recevoir n'importe quel enfant, n'importe quelle tranche d'âge. Savez-vous que c'est parfois, par exemple, il faut être capable de recevoir un bébé qui pleure tout le temps, qui ne dort pas, qui a mal au ventre, et un grand adolescent qui veut se jeter par la fenêtre, quoi. Et dans cette amplitude-là, ne serait-ce que la qualité de la relation, par exemple, comment on établit une relation avec un tout petit, avec un moyen, avec un grand, donc il y a cet enjeu-là. Et puis effectivement, après, il y a la question de l'autisme. Enfin, on pourrait sortir, si on sort par catégorie, on va en sortir plein, quoi. Et moi, je suis d'accord. Mais dans la formation, en tous les cas, telle qu'on l'a, on est très attentif. Mais ça ne suffit pas, la formation, parce qu'après, il y a tous les autres autour. Mais nous, c'est pour nous une des contraintes actuellement en termes de formation. C'est même écrit dans le texte.
Alors, monsieur.
Une question lapidaire. Serais-tu favorable à ce qu'on flèche certains postes d'universitaires en psychiatrie périnatale ? Donc à faire reconnaître la spécificité de cette période qui n'était pas étrangère parce que tu t'es beaucoup occupé de bébés comme suffisamment dense en termes de spécificité, en termes de connaissances scientifiques et en termes de pratiques sur les 8 facs dont tu parlais qui sont malheureusement sans enseignants. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à tenter?
Alors c'est en fait dans la continuité de la remarque de monsieur. La tendance en Europe, et moi théoriquement, je serais, et on l'a écrit dans le rapport, la possibilité de flécher périnat, enfant et ado, en fait. On a mis les trois, nous. Mais à la limite, ça sera possible lorsque déjà on aura une sorte de socle commun dans toutes les régions des gens formés, quoi. Enfin, et au moins un professeur. À ce moment-là, on peut, dans le deuxième, dans le troisième, effectivement, on peut, parce qu'en plus, pour être nommé, il faut être pointu. Vous savez, pour être nommé en université, il faut être hyper pointu. Et c'est comment on est hyper pointu? En se sur-spécialisant. Et là, mais c'est, vous le dites, c'est pour toute la médecine. Les pédiatres, ils sont spécialisés, le rein, le foie. Et c'est comme ça qu'on arrive. Donc, oui, Mais à condition que le socle de base soit assuré. Mais oui, moi, je serais pour. Et l'exemple de la périnatalité est un bon exemple.
Madame, vous avez dit que vous faisiez court, hein, parce que c'est une question supplémentaire. Ça,
je vais très vite, juste pour insister, pour que les personnels qui travaillent en pédopsie, les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, soient quand même sensibilisés à la psychiatrie adulte. On passe quand on ne connaît pas, on ne repère pas un père paranoïaque, on ne repère pas un père déprimé, on ne repère pas une mère déprimée, et on fait traîner des prises en charge qui ne marchent pas. Enfin, je trouve que cette formation est essentielle.
Oui, alors, si vous le dites, c'est que vous avez en tête des situations où ça n'a pas fonctionné, mais la formation, justement, la formation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas encore... Mais même le jour où on aura un co-DES... les psychiatres d'enfants et d'adolescents sont psychiatres d'adultes aussi. Mais, voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Par contre, après, comme dans certains Moi, je sais que dans certains départements, il y a, par exemple, un pédopsychiatre installé ou un pédopsychiatre vraiment qui peut faire rien du tout. Et donc, il y a toute une des tâches qui vont être faites par des tas d'autres gens. Et effectivement, il faudrait pouvoir avoir cette exigence-là. Pour connaître la fac de psycho, moi je travaille beaucoup avec eux là-dessus parce que eux ils n'ont pas la même, ils ont pas forcément la même idée de la santé publique. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il faudrait pas, mais ça c'est pas notre sujet, mais qu'il y ait un internat pour les psychologues, que les psychologues puissent aussi se former sur
Monsieur.
Concrètement.
Oui. François Costa, je suis le directeur du centre hospitalier départemental du Lot-et-Garonne ici à La Candélie. Je voulais poser une question par rapport aux maisons des adolescents avec les missions de deuxième génération. Je voulais savoir comment vous envisagez un travail concret, j'allais dire, avec le secteur qui a normalement déjà en charge cette population et qui a souvent tissé des réseaux. Alors c'est vrai qu'en France, on a des expériences réussies qui fonctionnent bien. On publie peu et on fait peu savoir les choses. Donc les maisons des adolescents, ça peut être très intéressant. Mais concrètement, comment voyez-vous cette articulation entre le réseau qui sera créé par les maisons des adolescents et les réseaux de la pédopsychiatrie,
voilà, les maisons,
sachant qu'on a parfois des personnels qui sont d'ailleurs communs sur les deux structures. En tout cas, des personnels qui sont communs dans les deux structures quand on est dans un petit département, comme le nôtre, par exemple.
Oui, j'étais à Tulle il n'y a pas très longtemps, et c'est pareil. Le pédopsychiatre de la maison, ou la pédopsychiatre de la maison de Tulle, et en fait, c'est la pédopsychiatre de l'intersecteur. C'est la même qui donne un petit peu de temps. Oui, alors vous avez raison. Justement, ça fait partie de la question de la deuxième génération. C'est-à-dire que les maisons des adolescents, elles ne se substituent pas aux intersecteurs, aux CMP. Elles viennent amener quelque chose en plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la définition des maisons des adolescents, il y a un cadre commun. Et puis le reste doit s'adapter à ce qui manque ou à ce qui n'est pas possible pour améliorer la prise en charge et le soin. Donc, ça suppose justement, ça c'est le travail de la deuxième, enfin c'est les conventions et les ARS sont chargés, mais c'est tripartite maintenant puisque l'éducation nationale doit être associée à ces négociations. On doit définir en fait les parcours et les rôles des uns et des autres. Il y a le principe et puis après il y a des pratiques quoi, ça je... Mais vous avez raison, ça doit être vraiment articulé, sinon c'est ça perd de son efficacité, alors que quand c'est bien articulé, on a des très beaux exemples où ça fonctionne, ça potentialise énormément la prise en charge et ça diversifie, ça permet une autre manière de faire, enfin, mais bon, je suis bien d'accord, j'ai pas de... Mais les conventions devraient nous permettre d'améliorer ça.
On aura l'occasion de réévoquer le sujet demain après-midi, puisqu'il sera question effectivement des maisons des adolescents, entre autres. Monsieur.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Jean-Claude Lardy, directeur honoraire. Ma dernière affectation était le CHS d'Ennel-Château. Donc je vais profiter de ma qualité de directeur honoraire pour m'exprimer avec une certaine liberté de parole sur les questions en particulier de démographie médicale. Alors, 28 professeurs en pédopsychiatrie, disiez-vous, madame, je crois que sur la psychiatrie adulte, ils doivent être 50 ou 60, c'est le chiffre.
Sur la psychiatrie adulte, 100, ils sont une centaine.
Ah, quand même une centaine.
Je sais plus.
Voilà. Alors, effectivement, quand on ne veut plus qu'il y ait de pédopsychiatres, on ne nomme pas de professeurs. Comme ça, on est sûr qu'à terme, la profession va s'étioler. Alors, quelle réponse, quelle correction est-il possible d'attendre ? Je vous le dis tout de suite, n'attendez rien, en tout cas à court terme, du politique.
Oh.
Je remémore cette entrevue que j'avais eue...
On écoutera le sénateur tout à l'heure.
Cette entrevue que j'avais eue avec un haut fonctionnaire au ministère de la Santé. Il est actuellement au CNG, il s'occupe des médecins. Et il me disait... qu'il n'arrivait pas à se faire entendre des cabinets, tous bords politiques confondus. Je n'ai pas d'option dans ce domaine. Parce qu'on lui répondait, le ministre fait de la politique et ce n'est pas sur les questions de démographie médicale qu'on gagne ou qu'on perd les élections. Alors on vous verrait, ceci dit, un jour ou l'autre, peut-être prochain, les politiques se réveiller quand ils commenceront à avoir peur pour leur réélection sur les questions de démographie médicale, en particulier sur la médecine rurale. Là, il y en a quelques-uns qui vont commencer à prendre conscience un petit peu des conséquences de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Et puis après, le politique passe...
Vous pouvez synthétiser votre pensée.
Le politique passe, les administrations restent. Et là, bon, la continuité, elle est là, elle est à l'administration centrale. Alors en fait, si on en est dans une situation comme celle-ci, c'est très clair. Pour moi, ça n'est pas le fruit du hasard. Ou, dans le meilleur des cas, on est dans une passivité coupable, ou alors c'est une volonté, mais non affichée.
Merci pour ce témoignage. Alors, vous pouvez vous exprimer, et puis je pense que M. le sénateur s'exprimera aussi sur le sujet tout à l'heure.
Moi, je pense que les politiques, globalement, ils sont quand même conscients de la question. Mais je suis d'accord avec vous, pour aller vite et sur la fin, et qu'il y a une sorte de passivité coupable. Moi, je ne pense pas que ce soit actif, mais il y a cette idée que, voilà, on laisse faire, par exemple, pourquoi dans une fac de médecine, le doyen nomme 10 personnes en génétique, je prends un exemple, et en pédopsychiatrie, il faut une énergie absolument incroyable pour en nommer un, là où il n'y en avait pas. Pourquoi ? On se dit. Mais on se dit, comment ça... Il faut agir. Qui agit ? On ne sait pas. Il y a une sorte... On laisse faire des choses... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la question institutionnelle. Et on laisse faire des processus. Moi, par exemple, des fois... On m'appelle, on me dit, s'il te plaît, Marie-Rose, il faut que tu t'occupes de ma fille, de mon fils. Et là, je lui dis tout de suite, ok. Je lui dis, je m'en occupe, et puis après, je dis à la personne, tu te rappelles un jour, tu m'as refusé un budget. Elle me dit, oui, c'est vrai, je t'ai refusé un budget. Et d'ailleurs, demain, je te le refuserai encore. Parce que, machin, les grandes... Et or, au moment où on a besoin, on se dit, mais c'est fou, on ne peut pas laisser quelqu'un, un adolescent souffrir comme ça, mais c'est incroyable. Un adolescent qui va mal, qui appelle, on le met sur une liste d'attente avec 6 mois d'attente, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens individuel et collectif dans notre société. Mais il y a une sorte de dissociation cognitive et affective, hein. Lorsqu'on sait, lorsqu'on voit, on voit aussi comment on modifie le destin de ses enfants, on se dit, mais c'est incroyable, ça. Ah, j'ai bien fait de me lever pour m'en occuper. Donc, on se dit, c'est vraiment incroyable. Et puis, après, il y a les choses institutionnelles, comme si elles perdaient leur sens, et une dissociation entre les deux. Mais je me bats sur les représentations. Et peut-être qu'on a aussi une représentation. Alors, ça, c'est une idée de mon ami Bruno Falissard, hein, professeur de santé publique, qui considère que si on donne si peu de moyens à la pédopsychiatrie, en particulier en France, c'est parce que, globalement, hein, tous ceux qui travaillent dans le champ, c'est parce que on a l'idée que les enfants ne peuvent pas vraiment souffrir et qu'au fond, on se sentirait même un peu coupable. Il suffit d'avoir des bons parents qui se comportent bien et tout irait bien, quoi. Il y a une sorte de représentation collective totalement, absolument... aberrante, voilà, c'était juste ça là. Réfléchissons à cette dissociation quand même.
Vous aviez deviné, mais il y a quand même une dernière question ou remarque peut-être de notre témoin de la matinée, à savoir le docteur Yvan Halimi.
Oui, un grand merci et à toi Marie-Rose pour ton intervention et surtout pour la qualité de ton rapport. Bon, je crois que simplement je voudrais souligner 2-3 points. Bon, le premier... qui s'articule d'ailleurs avec la notion de preuve et la notion, je dirais, symétrique de bonne question. Et la première bonne question que tu as posée, c'est est-ce que finalement les consultations demandées à la pédopsychiatrie sont du luxe, sont inutiles, sont superflues ? Et tu as apporté une réponse, 99% sont légitimes et ce sont des choses sérieuses. Et tu l'as articulé avec le fait de dire finalement on n'a pas à supporter, à tolérer la souffrance des enfants. Et on voit bien que ça s'articule avec la question de la formation, puisque reconnaître la souffrance chez l'enfant, je dirais, ça doit être le prolongement d'une formation qui aide à la reconnaître. Et on voit bien, à partir de là, à quel point la nécessité de disposer de professeurs de pédopsychiatrie qui, finalement, vont diffuser cette formation jusqu'au pédopsychiatre, mais aussi jusqu'à, finalement, la personne de cantine qui va l'aider à reconnaître un enfant qui ne mange pas, un adolescent qui ne mange pas. Je crois que c'est un enjeu important, et tu viens de le rappeler, d'acculturer la population au fait que l'enfant peut lui aussi souffrir de dépression et d'angoisse. Et il n'y a pas que... Et enfin, bon, deux points... Merci d'avoir initié cette possibilité du pass santé jeune, parce qu'on voit bien que ça va donner accès à des familles et à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'accéder à des dispositifs, ni même la capacité de pouvoir disposer de cette information. Et le modèle que tu as souligné de finalement des étudiants de France, quoi, la Fondation des étudiants de France, qui est, je dirais, un modèle intégratif, qui finalement devrait inspirer la question du décloisonnement de la pédopsychiatrie, si elle veut être efficace, et s'inscrire, je le dis aussi, dans la durée, parce que la particularité du travail de ces dispositifs, c'est d'intégrer quelque chose de l'ordre de la construction du sujet, mais on sait que ça ne peut pas se faire en deux jours ou en trois jours, et d'inscrire les projets dans une logique de continuité des soins sur une certaine durée. Donc voilà, bon, écoute, merci à toi, et j'espère que tout ce que, finalement, aujourd'hui, on essaye de faire percevoir à des personnes qui sont en situation de décider, puisque les directeurs ont cette responsabilité, je dirais, pour aller... et sensibiliser à cet enjeu. Voilà.
Décidez bien, alors, hein, parce que
voilà,
c'est important.
Exactement. Je disais...
sur ces questions de... Mais c'est vrai, la question du temps, moi, je pense, c'est vraiment très important dans la reconstruction, de ne pas rompre, on passe à tel âge et hop, on change de dispositif. Mais ça n'a pas de sens dans une reconstruction. La durée de séjour, enfin, il y a des tas de choses comme ça qui font que la question des dispositifs doit être complexe.
Merci, professeur Moreau, pour cette présentation. Avec une énergie absolue, on voit que vous devez défendre clairement vos idées. Alors.